France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Attention, un Péléas peut en cacher un autre, alors que Stanislas de Barbeyrac s'apprête à reprendre au Théâtre des Champs-Élysées à Paris le rôle écrit par Debussy, avec Patricia Petitbon, mise en scène signée Eric Ruff, avec François-Xavier Roth à la baguette, un autre Péléas et Mélisande enregistré chez lui à l'Opéra de Bordeaux, alors que la pandémie avait interrompu les spectacles. Ce Péléas au disque vient de paraître chez Alpha Classics. Bonjour Stanislas de Barbeyrac.
Bonjour.
Quand on enregistre comme ça, quand on monte sur scène, à Bordeaux, où vous vivez, à Barsac plus précisément. Qu'y a-t-il de différent? L'attention n'est pas la même, le trac moins, ou plus fort au contraire, ou c'est vraiment un cliché?
Non, c'est vrai que c'est pas pareil. Parce que ce qui n'est pas pareil, c'est le quotidien d'un artiste qui est en répétition et en production dans une ville quelque part dans le monde et qui rentre et qui est tout seul. Et que quand je suis à Bordeaux, je rentre chez moi. En fonction des répétitions, je peux aller chercher mes enfants à l'école quand je sors de répétition. Donc évidemment, ça change. Après, au niveau du stress, et du comportement, production, etc., c'est aussi beaucoup plus calme, beaucoup moins de stress, parce que j'ai eu la chance d'évoluer plusieurs fois à l'Opéra de Bordeaux. Donc c'est vrai qu'on crée quelque chose avec le public de différent. C'est des gens qui m'ont vu naître au conservatoire souvent, qui m'ont vu naître avec les compagnies Opéra Bastide quand j'étais jeune, qui m'ont vu évoluer, qui m'ont vu partir, revenir, et donc il y a un lien d'amitié avec beaucoup de gens. Donc c'est différent. C'est vraiment calme et serein, je dirais.
On a beaucoup parlé depuis la pandémie, beaucoup plus de la vie d'artiste lyrique. On en parlera tout à l'heure, Stanislas de Barbeyrac, jusqu'à 9h. Cette vie, par exemple, il y a beaucoup d'artistes lyriques qui ne vivent pas à Paris. Heureusement, il n'y a pas que Paris dans la vie, mais cette vie à la campagne bordelaise, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Comment elle vous nourrit dans votre métier de chanteur lyrique?
C'est des parenthèses à chaque fois que je suis à la maison qui sont indispensables, parce que on a un tout autre rythme de vie. On a une façon de vivre complètement différente, le temps s'arrête, moi j'ai une relation, beaucoup d'amis et de voisinage à Barsac qui me permet de changer de sujet surtout, de parler d'autres choses, d'être concrètement dans la vraie vie. C'est pas du tout un cliché de le dire, c'est une réalité, parce que quand on est en milieu de chanteur,
on est en vase clos.
Ouais, en vase clos, et puis on parle de chant, et puis on parle des carrières, et puis on parle des relations qu'on a dans le métier, de tiens, il a fait ci, tiens, je vais faire ça. Bon, au bout d'un moment, moi, ça me gonfle pas mal, je dois dire. Ça m'importe peu, et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de partir dans les bois, ramasser des cèpes.
C'est la saison.
Voilà, en plus. Et voilà, donc ça fait du bien.
Un équilibre. Bordeaux, dans quelques instants. Mais l'une de vos autres maisons de cœur, c'est Mozart, c'est la flûte enchantée, et c'est ce rôle de Tamino.
Ist nicht ein Zaubertun, weil alle Flöte durch dein Spielen selbst wilde Tiere Freude fühlen. Wie stark ist doch dein weil holde Flöte durch dein Spielen. Holde Flöte durch dein Spielen, selbst wilde Tiere Freude. Panina bleibt davon, nur Panina bleibt davon. Panina, höre,
Papagenos Ton. Vielleicht sei bei Ihnen schon, vielleicht als Sie mit ihm zu mir, vielleicht, vielleicht führt mich der Ton zu ihr, führt mich der Ton zu ihr. Führt mich der Ton zu ihr.
Hop, et on s'arrête là. Stanislas de Barbeyrac, Insula Orchestra, dirigé par Laurence Equilbet, cet air de Tamino, de la flûte enchantée de Mozart. Stanislas de Barbeyrac avec nous. On va parler d'un grand rôle, Péléas de Bussy. Mais celui-là, ce Tamino que vous avez chanté à l'Opéra de Paris, à Bastille, avec une superbe mise en scène de Robert Kersen. On voyait votre visage sur écran géant, également à Aix. Ce rôle-là, est-ce qu'il vous a collé à la peau, ou vous l'acceptez toujours, assumé, ou il faut s'en détacher un peu?
Ah, c'est les deux, en fait. Je crois que ça a été un rôle charnière, c'est un rôle qui m'a apporté beaucoup, qui m'a ouvert beaucoup de portes.
Découvrir aussi un peu,
ouais,
beaucoup.
Ouais, bien sûr, la prise de rôle au Festival d'Aix-en-Provence, ça a été un tremplin évident pour moi, et j'aime beaucoup cet ouvrage, j'aime beaucoup Mozart. Mozart me suit encore aujourd'hui, donc voilà, j'ai mis beaucoup de temps à aborder Mozart parce que effectivement c'était très difficile à chanter, en fait. On nous dit souvent il faut chanter Mozart quand on est jeune chanteur au conservatoire ou même à l'atelier lyrique à l'Opéra de Paris, je me souviens, et on nous disait mais chante Mozart. Je dis mais oui, mais pour l'instant j'y arrive pas. Donc ça a pris du temps et finalement ça s'est concrétisé, et voilà, il me suit encore, donc pour le coup, Tamino, je le mets un petit peu de côté parce que je l'ai beaucoup fait et que je sens que ma voix a besoin d'autre chose, hein, aussi. Voilà, ça a été une charnière, et aujourd'hui il y en a une autre qui se passe. Donc je l'assume parce que ça m'a apporté que des joies. Tamino, j'ai eu que des belles productions, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré des gens super en chantant La Flûte Enchantée. Donc voilà, j'ai un très bon souvenir de tout ça. Mais pour l'instant, je préfère que ça reste un bon souvenir.
Il y a un Don Giovanni qui se profile à Vienne, oui, à la fin de l'année, oui, de Mozart.
Voilà.
Chanter Mozart à Vienne, c'est quelque chose qui met un peu une pression, une boule au ventre.
Oui. Oui, oui, franchement, j'y vais sereinement parce que je connais bien Don Ottavio, mais bon, voilà, j'ai déjà chanté à Vienne, je sais que c'est assez impressionnant, j'avais chanté du Gluck la dernière fois, mais là, effectivement, en plus c'est une nouvelle production, donc c'est des choses assez rares au Staatsoper d'être dans un process comme ça de création. C'est Philippe Jordan, on se connaît bien, voilà, il y a un bon contexte, tous les collègues je les connais, on a déjà chanté ensemble, donc je pense que ça va être un bon moment, mais voilà, chanter Mozart à Vienne, c'est différent, c'est sûr.
Aujourd'hui, Stanislas de Barbeyrac, quels sont les rôles dont vous êtes le plus proche, qui vous sied le mieux à votre voix et aussi à votre caractère?
Bah, ce sont des rôles en fait que je suis en train de découvrir et que je vais faire aussi dans l'avenir.
Par exemple,
Don José, ça a été une vraie découverte, le Carmen à l'opéra de Bordeaux.
C'était pas très longtemps, hein,
non, c'est très récent. Dernière, ouais, c'était avant
l'été. Entre les gouttes.
Ouais, exactement. Donc ça, c'était vraiment une découverte aussi pour moi. Je savais que ce sont ces genres de rôles vers lesquels je vais, mais voilà, ça, je pense que vraiment ça me colle à la peau. Il va y avoir aussi Florestan dans Fidelio cette saison.
La scène musicale, notamment avec Laurence Equilbet.
Voilà, exactement. Voilà ces rôles-là. Certains rôles de, par exemple, La Vestale, Jason dans Médée, c'est des choses que je vais aborder, et certains rôles Wagnerien qui arrive dans quelques années aussi.
Péléas, comment vous l'avez rencontré? C'était à Nantes, il y a quelques années.
Le premier Péléas, c'était à Bordeaux également. Pardon. Ouais, c'était à Bordeaux, avec Marc Minkowski, mise en scène. Je crois que j'ose le dire, je pense que c'est pour l'instant le rôle de ma vie. Ouais. Je pense que ça va me suivre longtemps. J'en discutais avec Jean Tedjen, en ce moment au Théâtre des Champs-Élysées, en répétition. Et en fait, je ne m'en lasse pas. Je dirais que peut-être Tamino, je m'en lasse un peu, j'avoue. Je l'aime beaucoup, mais je m'en lasse un peu. Mais Péléas, enfin, je veux dire, il y a un tel paysage musical à l'orchestre, c'est tellement beau. J'avais du mal à écouter ça quand j'étais jeune chanteur au conservatoire. C'était un petit peu une épreuve de s'asseoir et écouter un CD de Péléas. C'est vrai que c'est compliqué, j'avoue. Mais l'aborder, le découvrir, le décortiquer, le chanter, le texte, enfin, c'est vraiment un tellement beau. Donc pour l'instant, je pense que c'est un peu le rôle de ma vie. J'espère le chanter encore longtemps tant que je pourrais être un jeune Péléas physiquement. voilà. Mais non, j'espère que ça va m'accompagner longtemps. Pas trop, parce que c'est évidemment un rôle très central. Donc je suis quand même ténor et faut pas oublier de chanter d'autres choses parce que vocalement c'est très confortable pour moi et c'est pour ça aussi que ça me donne une espèce de jouissance, parce que c'est quand je rentre sur scène pour chanter Péléas, je pense pas au chant, je pense d'abord à être Péléas, quoi, à produire du texte, à être dans les détails. Donc voilà, c'est une aventure incroyable, cette musique.
Et ben nous on s'assoit et on écoute le CD Péléas et Mélisande. Claude Debussy, c'est rare qu'il y ait des disques d'opéra aujourd'hui. Ça a été le cas avec Alpha Classics à l'Opéra de Bordeaux il y a quelques mois. Le disque sort maintenant. Voici un extrait de cet enregistrement. Ah, les cheveux de Mélisande, les cheveux de Chiara Kescherat et la voix de Stanislas de Barberac, notre invité, l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine, dirigé par Pierre Dumoussou. Péléas et Mélisande vient de paraître chez Alpha Classics. Vous le découvrez là ce matin sur France Musique, ouais. Stanislas?
Ouais, tout à fait. J'avais pas pris le temps de l'écouter. On me l'a envoyé, tout ça, mais j'avais pas encore pris le temps de l'écouter.
C'est et alors?
Ben, c'est étrange, c'est toujours étrange de toute façon pour un chanteur de s'écouter. Mais j'avoue que c'est une écoute différente d'écouter Péléas. C'est pas pareil que le grand répertoire, etc. C'est vraiment pour moi quelque chose à part. J'écoute en fait l'orchestre quand j'écoute Péléas.
Ce disque, il a été fait dans des conditions particulières. Il y a eu ces derniers mois, ces 18 derniers mois, plusieurs disques qui ont été faits en France, dans des opéras, faute de spectacle, les chanteurs étaient là, l'orchestre aussi, et donc il y a des micros qui ont été posés pour enregistrer. Ça s'est passé comment à Bordeaux?
Ben, je dois dire qu'ils ont été très très réactifs parce que ça s'est passé à peu près juste l'avant-veille de l'annonce du deuxième confinement. On devait faire la générale. Et puis bah patatras, pas possible, donc c'était un vendredi, je me souviens très bien, et on était tous dans l'expectative de se dire bon bah c'est fini, on se dit au revoir, on verra, et puis finalement le samedi matin on a eu un mail, donc très rapidement, en nous disant bah, lundi Alpha vient poser les micros et en fait on prend le temps d'enregistrer Péléas. Comme vous l'avez dit, c'est très rare,
parce que ça coûte très cher,
parce que ça coûte extrêmement cher d'avoir un orchestre et des chanteurs comme ça en studio aujourd'hui pour faire une œuvre complète, surtout parce que Péléas c'est long. Et en fait on a pris le temps des spectacles pour mettre les micros et enregistrer acte par acte, donc on a eu en plus du temps et c'était très luxueux. On a pu faire des patchs, etc. Donc
des patchs et des
voilà montages. Voilà des montages. Après on a essayé de filer comme si on était en concert, un peu 1-2-3 puis 4-5 par exemple pour les actes, et puis après on dit bon voilà, le directeur artistique dit là j'ai besoin de ça. Donc ça a été très intense mais très confortable.
On vient de l'entendre sur cet extrait, Stanislas de Barberac. On comprend tout. C'est pas si fréquent, c'est pas si facile. Comment on chante naturellement chez Debussy?
Eh bien, c'est une très bonne question. Je dirais que moi, j'ai abordé ça en vraiment en disant le texte. C'est ce qu'a voulu Debussy, je crois. Je crois qu'il a vraiment prosodié un texte de Materlin qui est tellement riche, tellement puissant, tellement sensible. Il y a plein de double sens. Voilà, donc j'ai d'abord dit mon texte souvent. Et en fait, la mélodie s'est installée. Alors musicalement, c'est très compliqué, Péléas et Mélisande. Donc il faut quand même faire les notes. Mais c'est très dur, en fait, de se dégager de la musique. Et je crois que moi, c'était mon objectif. C'était de me dégager de la musique, de m'inspirer de l'ambiance sonore créée par l'orchestre et d'essayer de dire un texte.
À chaque fois que c'est une nouvelle production, de nouveaux partenaires, vous allez être dirigé par François-Xavier Roth, c'est une première pour vous. Vous allez chanter avec Patricia Petitbon, ça c'est pas une première, mais c'est votre première Mélisande. Comment ça se produit? Là vous êtes en plein travail, ça commence au Théâtre des Champs-Élysées le 9 octobre.
Bah c'est la chance de notre métier, je dirais, c'est de chanter des rôles, les refaire et de découvrir de nouveaux interprètes, et c'est ce qui nous nourrit, de trouver un nouveau metteur en scène, une autre vision complètement différente de ce que j'avais pu faire à Bordeaux. Et c'est ce qui me permet d'être en joie dans mon métier, en fait, parce que j'ai une autre conception qui m'est apportée par un chef, là en l'occurrence François-Xavier Roth, qui me propose des choses, avec qui je travaille, et donc c'est jamais pareil, et c'est ça qui m'anime, moi.
On va reprendre une mèche de cheveux de ce très beau disque, Péléas et Mélisande. C'est pas du tout approprié, mais c'est un peu le tube.
Thank you.
De PDAC Mélisande, Claude Debussy, la voix de Chiara Skerat, celle de Stanislas de Barbeyrac, Mélisande et PDAC, l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, dirigé par Pierre Dumousseau, disque qui vient de paraître chez Alpha Classics, et PDAC et Mélisande, mise en scène par Eric Ruff, c'est au Théâtre des Champs-Élysées, du 9 au 15 octobre à Paris, avec vous également Stanislas, on le disait, donc ce disque c'est presque un des rares effets positifs du confinement. Aujourd'hui, sur la scène lyrique, on en ressent encore les effets de cette crise sanitaire, évidemment.
Oui, c'est vrai. Pour le peu de production ou concert que j'ai réalisé depuis l'été, là, on en discute évidemment entre nous, les chefs, les chanteurs, etc. Et il y a encore un peu de... soit de la patience de retrouver la vie normale parce qu'on en a besoin et que pour beaucoup de gens ça a été extrêmement dur psychologiquement de traverser cette période, vraiment. Et puis aussi une attente d'autre chose pour l'avenir dans notre secteur. C'est vraiment chez les chanteurs, c'est très très flagrant.
C'est-à-dire autre chose.
Autre chose dans la façon dont sont gérées les relations entre les théâtres, les chanteurs, par l'intermédiaire des agents, essayer de trouver une communauté un peu de chanteurs qui s'écoutent, qui s'entraident. On a quand même un côté très égocentrique dans notre métier qui est dû à la solitude aussi, ce qui est complètement normal et légitime, mais on a besoin, je crois, de s'ouvrir un petit peu aux autres.
Depuis le début de cette pandémie et la création de ce collectif qui s'appelle Unisson, il y aura un gala d'ailleurs le 10 octobre à Paris à l'Opéra Comique. Les lignes ont déjà bougé. Vous pouvez nous rappeler d'ailleurs, c'est un collectif de chanteurs lyriques pour faire valoir ses droits d'abord.
Ouais, tout à fait. C'est d'abord un lieu d'échange, d'écoute, d'information. On s'est entouré de professionnels aussi. On écoute beaucoup aussi ces professionnels, on apprend beaucoup, on a besoin d'être pédagogue, nous les chanteurs aussi, sur notre carrière, sur la façon dont on vit, comment on vit, qu'est-ce que c'est qu'être un chanteur lyrique, soliste, indépendant. Voilà, donc on est passé par une période de questionnement, de recherche, de documentation, de mettre les choses sur la table avec les acteurs de notre milieu. Donc ça bouge un peu, je dois dire. Tout à l'heure, je vais assister aussi à un culture event là à Corto pour des journées sur de réflexion sur l'avenir de après Covid, etc. On a besoin de se rencontrer et aujourd'hui, voilà, par exemple, le concert de l'Opéra Comique, c'est vraiment un truc assez exceptionnel et les chanteurs ont besoin et on a besoin de montrer aux gens que on est là aussi pour produire un truc festif. C'est important aujourd'hui aussi de reprendre un peu le chemin de la scène avec ce côté pas plaintif mais festif.
Gala Unisson à l'Opéra Comique le 10 octobre. Ouais. Toutes ces questions-là, Stanislas de Barbeyrac, mais aussi un regard sur le monde, sur la société, et le lien entre le monde lyrique, l'opéra et cette société.
Bien sûr, il y a beaucoup de travail qui est fait déjà pour renouveler les publics, attirer les jeunes dans les salles. Moi, je suis ravi de voir qu'à l'Opéra de Paris, les soirées d'avant-première de moins de 28 ans, elles sont bondées. Et il y a même des gens qui attendent des places. Donc c'est un signe quand même qu'il y a des choses qui se passent. En province, il y a beaucoup de choses qui sont faites en région pour essayer de démocratiser un petit peu cet art élitiste. Bon, on rentre dans les clichés habituels, mais c'est vrai, il y a beaucoup de travail qui est fait, donc c'est très bien. Et puis surtout, nous, les chanteurs, grâce aux réseaux sociaux, grâce à tout ce qui existe aujourd'hui comme moyen que l'on a entre nos mains tous les jours, tout le temps, de montrer ce que c'est, d'essayer de faire rentrer les gens backstage, je pense que c'est important.
Stanislas de Barberac, de Péléas, l'un au disque avec l'orchestre de Bordeaux-Aquitaine chez Alpha Classics et au Théâtre des Champs-Élysées à partir du 9 octobre. Et puis, un récital dans quelques jours, tout juste, au Théâtre de l'Athénée à Paris. Ce sera le 4 octobre avec Alphonse Semain. Ça, c'est important pour vous de continuer à chanter en récital.
Oui, bien sûr. C'est très important. Et cette période de Covid m'a fait réfléchir aussi sur ma carrière là-dessus.
Bientôt un disque ?
Bientôt.
Ah. Et ben en attendant, il y a France Musique, parce qu'il y a quelques mois, chez notre ami Clément Rochefort, vous avez donné une magnifique version des Dichter Liebe de Robert Schumann avec Susanna Bartal au piano.
Ich scrolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, ewig verlorenes Lied, ewig verlorenes Lied, ich scrolle nicht, ich scrolle nicht, wie du erstrahlst in Diamantenpracht, es fällt ein Strahl in deines Herzens Nacht, das weiße Schlecht.
Grolonicht, je ne leur en veux pas, si mes souvenirs d'allemand sont bons. Les Dichter Liebe, Robert Schumann, Stanislas de Barberac et Susanna Bartal, c'est à revoir sur l'espace vidéo de France Musique. Et Debussy, donc au Théâtre des Champs-Élysées et au disque tout prochainement et à l'Athénée le 4 octobre. Merci Stanislas de Barberac.
Merci à vous.
À très bientôt.
Oui, à bientôt.
Demain, on reçoit une autre grande voix, celle d'Anne-Sophie von Hauteur, qui sera à votre place. Au générique de Musique Matin, il y avait Xavier Atto, Swad Boukorsa, Marion Guillemet, Flora Sternadel, Pierre Matignon et Yacine Bouzard.
À réécouter sur francemusique.fr.